L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Salut à tous, bon week-end et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique. Chaque samedi, votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech et à l'économie numérique avec toute l'équipe de l'atelier. Tout à l'heure, Lina Megraoua sera là. On retrouvera le crash test d'Antoine Cyr, bien évidemment. Mais autour de cette table, pour débuter cet atelier, nous avons Aurore Géraud, Constance Guyon, Cécile Puyardy et puis Nathalie Doré depuis San Francisco. Mesdames et mesdemoiselles, bonjour.
Bonjour.
Avec au menu, c'était superbe. Dans un instant, Jean de Chambure qui sera là depuis la Chine. On va beaucoup voyager encore dans cet atelier. On va parler de French Tech en Chine. Et oui, la French Tech est présente du côté de Shanghai. Et ce sera notre vue d'Asie tout à l'heure. Notre Silicon Carnet avec Nathalie, Cyber Gadget aussi. Startup de la semaine. On va parler de biohacking dans notre enquête de l'atelier, notre web stratégie tout à l'heure. Et puis on évoquera aussi notre passion selon Sanet. On parlera de réalité virtuelle. Mais quelles conséquences pour le cerveau? Cette fameuse réalité virtuelle, vous savez, ces masques-là qui nous immergent en fait dans des univers complètement incroyables. Eh bien, on verra ça tout à l'heure avec un chercheur. Notre World Tour, French Tech Tour aussi, et puis la rédaction de Zeronet.com. Tout à l'heure, dans cet atelier, soyez les bienvenus. C'est parti donc, et on commence avec l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Et nous allons commencer par Constance Guyon.
Oui, alors moi je vais vous parler d'une jeune start-up polonaise qui s'appelle Soul Technologies. Alors, pourquoi je vous parle de Soul Technologies aujourd'hui? C'est parce qu'ils viennent de mettre au point un procédé révolutionnaire qui permet de transformer n'importe quel objet en panneau solaire.
Alors voilà. Exemple.
Par exemple, votre téléphone portable.
Oui.
Vous pouvez mettre un petit matériel dessus en l'imprimant en 3D pile poil à sa forme pour pouvoir ensuite le recharger en énergie. Le toit de votre voiture, pareil, vous pouvez mettre un panneau solaire. Tout ce que vous voulez, votre casque audio, hop, vous allez mettre un panneau solaire dessus. Alors, comment font-ils? Alors, ils utilisent de la perovskite, si je prononce bien, qui est un minerai un petit peu moins coûteux que le silicium, mais qui est encore plus efficace. Et en fait, l'avantage, c'est par exemple, quand on sait que le silicium va absorber seulement 15% de l'énergie de la lumière, la perovskite va en absorber 20%. Donc, on se rend compte que c'est bien plus efficient pour le panneau solaire, mais aussi elle peut être créée de synthèse et imprimée par imprimante 3D, donc d'en avoir vraiment de toutes les tailles et pour l'adapter à tous les objets. Donc voilà, pour le moment, les panneaux solaires imprimantes 3D sont encore au stade de prototype, mais ils devraient être commercialisés à partir de 2017. Aucun prix n'a été divulgué, mais ils indiquent quand même qu'ils vont essayer de faire des tarifs bon marché parce que leur but, c'est d'être commercialisé ensuite dans les supermarchés. Ils veulent vraiment rendre l'énergie solaire accessible à tous.
On peut imaginer peut-être que demain, certains tissus pourraient être équipés de cette techno, non aussi?
Voilà, c'est d'avoir des épaulettes.
Des épaulettes ou des t-shirts.
En perovskite. Voilà. Ce serait quand même le top du top.
Oh, il est super ton t-shirt en perovskite. Franchement, c'est vraiment,
c'est super.
Des perovskites de synthèse.
Ça capte le soleil. Et comme je rayonne.
Je crois que l'année dernière, on avait pas vu passer une news aussi qui était des panneaux solaires avec un spray. Un spray comme un tag, ouais, en fait. Et je me demande si c'était pas aussi la même.
Le spray transforme en fait la matière en panneau photovoltaïque en quelque sorte. Eh bien, dites-moi. Pas mal. Nathalie depuis San Francisco, on va parler robots avec vous, Nathalie.
Oui, et je vais vous parler de Megabots. Alors, est-ce que vous connaissez Megabots?
Pas du tout.
Bon, c'est normal, François, puisque c'est une start-up californienne qui est toute jeune. Elle vient tout juste de lever 2 millions de dollars. Et comme son nom l'indique, on va parler de robots géants. Alors là, on parle de robots qui font plus de 7 tonnes. Donc, imaginez des Transformers de la taille d'à peu près un étage et demi, deux étages. Eh bien, Megabots est spécialisé dans ces robots-là. Et ils ont levé cet argent pour créer une ligue de compétition entre robots. Donc en fait, plutôt que d'aller voir courir des chevaux à Longchamp, êtes-vous prêt à aller voir un combat de robots géants?
Oui.
Oui, chouette. Si je suis loin et que je regarde ça à la télé de l'autre côté du monde, ça va. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas.
Eh bien écoutez, ça sera bientôt possible. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent qu'ils viennent de lever? Eh bien, le cofondateur Brinkley Warren a déclaré à TechCrunch qu'il allait monter un partenariat avec un cabinet juridique, c'est sérieux, hein, pour se faire aider à mettre en place la ligue, les règles, et il a pour ça une ambition mondiale. Donc on parle vraiment de futurs Jeux Olympiques des robots. Alors, Megabot a quand même déjà fait un petit peu parler de lui, puisque l'an dernier, ils ont lancé un challenge à un robot japonais, et le Japon a accepté ce challenge. Il faut dire quand même que le Japon n'est pas en reste, hein, c'est le pays où la culture robotique est la plus forte, et ils vont bientôt se rencontrer. Donc, à ce stade, Megabot a généré à peu près 1 million de revenus, provenant des événements qu'ils font et du merchandising. Reste à voir quand même, je me pose la question, quel type de marque vont vouloir se positionner sur ce type de sponsoring. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est vraiment un nouveau format d'Olympiade, hein, mais il faut vivre avec son temps. Reste à voir quel engouement cela va générer auprès des publics. Alors quand on voit les enfants captivés par les robots, on se dit qu'il y a certainement un marché. Et pour ceux qui se poseraient la question quand même, ces robots géants à l'allure de Transformers restent quand même pilotés par des humains. Cela va peut-être nous rassurer, François.
Ouais. Et puis il faut quand même un sacré ring hein, pour qu'ils puissent se combattre dans de bonnes conditions. Enfin, il faut un stade de foot, quoi. C'est ça, non, visiblement.
Ouais, c'est pour ça que le cabinet juridique va plancher sur toutes ces règles.
Exactement. Merci Nathalie. Nathalie qu'on retrouve dans quelques instants pour le Silicon Carnet. On va parler de fintech avec elle. On reste dans les robots avec vous, Aurore.
Oui, Nathalie parlait du fait qu'on allait se rassurer parce que ce robot, derrière, il y a un côté humain. Moi, je vais vous parler de robots qui se font passer pour des humains. Il y a l'équipe de Watson, donc intelligence artificielle, qui vient de duper des étudiants américains de la Georgia Institute of Technology en leur faisant croire qu'ils étaient en contact avec un professeur pendant 5 mois via mail.
C'est pas vrai.
Ah, tout à fait. Elle répondait en fait sous le nom de Jill Watson. Ils auraient pu le sentir quand même.
Ouais, voilà. Là, il y avait quand même une petite farce.
Et elle répondait en fait à leurs emails et sur des forums. Alors ils ont été dupés parce qu'ils ont trouvé sur internet des profils LinkedIn et Facebook d'un potentiel professeur s'appelant Jill Watson. Donc à aucun moment ils ont trouvé que c'était bizarre.
Ah, ils avaient tout préparé quand même.
Et tout à fait. Et en plus de ça, ils ont programmé ce robot pour qu'il ait des réponses un peu cool, du genre yep.
Ah,
ou
oui.
Avec plaisir.
Ah oui.
Et donc
oui, c'est cool.
Ouais, c'est cool. Donc du coup, on peut pas s'attendre vraiment à ce que ce soit un robot derrière, mais ils émettent quand même, enfin, donc un élève a quand même trouver le poteau rose et parce qu'il a émis certains doutes notamment sur la rapidité des réponses. Le robot répondait extrêmement rapidement, ce qui n'est pas le cas des profs apparemment de la Georgia Institute. Il y a eu un petit côté prof bashing derrière.
Mais ils sont jamais en week-end ou quoi ces profs?
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et puis surtout elle s'est trompée sur certains termes, notamment c'était un professeur en design et au lieu de dire design elle a dit project plusieurs fois, donc voilà. Et surtout en plus ce robot, ce qui est intéressant, c'est que il ne répond aux questions que s'il est à 97% sûr
de
la réponse.
D'accord.
Donc potentiellement.
Donc il ne se trompe pratiquement jamais.
Il ne se trompe pratiquement jamais ou il ne répond pas du tout.
Et voilà.
Mais ça c'est plus normal. Non, c'est plus normal pour un professeur.
Oui, vaut mieux qu'il réponde pas qu'il se trompe.
Oui, voilà.
Parce que ça la fout mal quand même pour un prof. Cécile le plus hardi.
Bien là, on change de domaine puisqu'on va plus parler de robots mais de paiements innovants. Vous savez que d'ici 2030, tout le monde se dit qu'on pourrait devenir cashless. On parle souvent ici de nouveaux moyens de paiement. Il y a quelques semaines, on parlait de l'empreinte digitale en Chine. Mais la grande tendance, c'est les transactions par mobile. Le hic, c'est que pour payer par mobile, on avait jusque-là toujours besoin d'Internet, en fait. Eh bien, peut-être que plus maintenant, grâce au paiement par onde sonore. C'est une start-up canadienne qui s'appelle SoundPace, qui a imaginé un portefeuille virtuel sur le mobile qui n'a pas besoin d'Internet puisqu'il effectue des transactions par ultrasons sur le même principe, en fait, que le NFC, tout simplement. Donc ça pourrait accélérer le passage en caisse, voire le supprimer complètement, mais également ça pourrait particulièrement bénéficier aux petits commerçants ou aux marchés du dimanche, les marchés même du jeudi, du mardi, bref, les marchés voilà, dans la rue,
les marchés
qui ne peuvent pas tous accéder aux hautes technologies comme le paiement sans contact, les bandes interactives, etc. Ça peut être compliqué pour ces commerces-là, et en fait, ce nouveau moyen de paiement par ultrason pourrait leur faciliter l'accès à la clientèle. Donc la start-up...
Il y a que les chiens qui détesteraient.
La start-up
à chaque fois qu'on paye, il y a un chien qui s'en va et qui commence à aboyer. Non, je plaisante bien sûr. J'imagine que ça a été testé avec les chiens.
On leur demandera, sans doute.
On leur posera la question. Oui.
Et donc la start-up SoundPace, elle voudrait aller encore plus loin et permettre d'acheter en un clic un produit, un service ou encore un ticket de transport qu'on verrait sur un écran. Par exemple, imaginez, vous êtes devant votre télé, il y a une pub pour un produit, un paquet de pâtes, et vous pourrez en un clic acheter le produit sur votre portable puisque vous verrez le logo SoundPace, donc vous saurez que le produit est répertorié.
La télé envoie un son.
Exactement.
Qui identifiera le paquet de pâtes.
Exactement.
Et vous pouvez, incroyable ça.
Et vous pouvez l'acheter en
un peu un Shazam à l'envers en fait.
Ouais. C'est ça. On pourrait le faire à la télé, mais également au cinéma ou sur les bornes interactives, les affichages numériques déco, etc. Il y a une autre start-up qui développe cette technologie, qui est indienne et qui s'appelle TonTag.
Parfait. Très intéressant. Merci beaucoup. Et tout de suite, c'est notre rendez-vous avec Jean de Chambure pour notre vue d'Asie sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et voici notre rendez-vous vue d'Asie maintenant avec Jean de Chambure depuis Shanghai. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Jean de Chambure, vous le savez, qui chaque samedi dans l'atelier numérique est là pour nous faire vivre la Chine et les nouvelles techno avec en ce moment un événement d'importance, hein, un événement majeur, Jean, puisque se déroule le CES de Shanghai, le Consumer Electronic Show. C'est un événement qui est américain, hein, au départ. On connaît le CES de Las Vegas. Depuis quelques années, il y a aussi une édition en Chine, donc à Shanghai.
Oui, exactement, François. C'était la seconde édition en fait du CES à Shanghai cette semaine. Alors, il y avait des tas de choses très intéressantes qu'on a regardées, puisque on regarde bien entendu tout ce qui touche le futur du commerce, la smart mobility. Donc, on avait vu pas mal de choses autour des voitures connectées. Vous en avez parlé la semaine dernière, puisque déjà lors du salon de Pékin, on avait pu remarquer un certain nombre de modèles très intéressants dans ce secteur. On a vu aussi des drones intéressants, des mini drones, et beaucoup de choses autour de la réalité virtuelle, notamment avec cette annonce de Huawei, le concurrent de Samsung, qui a donc annoncé un nouveau téléphone avec un casque en fait qui permet de transformer son téléphone avec un petit casque en réalité virtuelle. Il y a un boîtier, donc vous êtes complètement immergé dans une nouvelle forme de réalité. C'est assez impressionnant et c'est tout simple en fait. C'est juste un petit boîtier qui coûte pas très cher. Et l'élément le plus enthousiaste qu'on a pu avoir, enthousiasmant pour nous à l'atelier, c'était de voir aussi que dans ce bel environnement avec des tas de start-up chinoises, des belles entreprises asiatiques, américaines aussi, et il y avait le pavillon de la French Tech. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'évidemment, une grande partie de l'innovation aussi ici se passe grâce à ces entreprises françaises qui ne sont pas forcément très connues. On connaît surtout le luxe en Chine, on connaît le domaine de l'industrie, on entend un peu moins parler du domaine du digital, mais ça existe vraiment. Et pour cette chronique, en fait, ce que je vous propose, François, c'est de donner un petit peu la parole à mon voisin qui est venu me rejoindre pour cette chronique, qui s'appelle Stéphane Monsalier, qui s'occupe depuis 9 ans d'une entreprise qu'il a créée ici en Chine, qui s'appelle System in Motion, et qui est l'un des co-animateurs de la French Tech. Je pose une question à Stéphane pour que après François, si vous le souhaitez, vous puissiez aussi un peu interagir avec lui. La question que j'ai en tête, en fait, Stéphane, c'est tout simplement quelle est un petit peu cette recette pour les entrepreneurs français qui sont à Shanghai et qui commencent à réussir. C'est vrai que la France est la première communauté européenne à Shanghai. Ça attire énormément d'entrepreneurs.
Alors Jean, c'est une question intéressante. Évidemment, la réponse n'est pas si simple et chacun des entrepreneurs, tous les représentants qui étaient aujourd'hui au CES à la French Tech a amené une réponse différente. La première chose à comprendre en Chine, c'est ce que certains appellent la Chine du pas. C'est pas de Google, pas de Facebook et pas de Twitter. Et à la place, des outils qui sont différents, qui sont pour certains en avance, qui offrent plus de possibilités dans tout ce qui est mobilité, dans tout ce qui est commerce. Donc avant de réussir en Chine, il faut évidemment comprendre cet environnement, savoir pourquoi c'est une opportunité. Le deuxième élément qui est extrêmement important dans la réussite des startups et des projets entrepreneuriaux en Chine, c'est la forte appétence des Chinois pour la nouveauté, les nouveautés technologiques. Une nouvelle technologie qui arrive en Chine, même si elle est un petit peu imparfaite, il y a aussi cette forte tolérance à des nouvelles technologies, à des nouveaux projets qui sont pas encore complètement rodés. Ça n'empêche pas la viralité, ça n'empêche pas de pousser un nouveau projet. Donc c'est le deuxième aspect qui fait qu'être entrepreneur en Chine aujourd'hui, c'est une bonne idée. Évidemment, il y a la taille du marché qui fait que une toute petite fraction d'un sous-marché en Chine reste très très intéressant. Donc c'est les trois piliers à avoir en tête.
Stéphane Monsalier, malgré tout, on est crédible, nous Français, pour créer des services. Alors vous êtes dans le web et dans les applications. Parce que j'imagine qu'il y a une concurrence même asiatique, chinoise. Les Français sont crédibles. On a un savoir-faire qui est recherché là-bas.
Oui, on est crédible et on l'est de plus en plus. Et c'est tout l'objet du label French Tech. D'amener cette crédibilité et de se réunir sous un même pavillon pour montrer la diversité des initiatives et de la créativité. Comme Jean le disait il y a quelques minutes, le luxe est connu, on a des piliers, même s'ils ne sont pas technologiques, qui permettent d'appuyer une certaine réputation. Et cette réputation, c'est tout le travail de la French Tech aujourd'hui, de l'étendre aux technologies et de montrer qu'on est capable de faire des choses en plus. Il y a un amour, c'est peut-être un mot, mais il y a au moins un respect pour la France. La France, qui est mine de rien un pays qui est pas si grand que ça géographiquement par rapport à la Chine. La France est connue, les Français sont connus, sont appréciés. Et si on regarde aujourd'hui la participation au CES, on se rend compte que il y avait une seule société française qui venait de France et que toutes les autres sont des entrepreneurs locaux qui sont ici et qui ont monté leur société ici. Donc on a un énorme tissu, une énorme communauté d'entrepreneurs français ici qui sont très connectés, qui sont très reconnus. Il nous arrive de rencontrer des sociétés étrangères qui sont allemandes, américaines ou espagnoles, et tout le monde nous dit qu'on est bon en web, qu'on est bon en innovation, qu'on est bon en WeChat, ce qui paraît un petit peu étonnant, mais il y a plusieurs agences WeChat ici qui sont spécialisées et qui ont été montées par des Français.
D'accord.
Donc la crédibilité est là, et maintenant on a ce label et cette identité qui est la French Tech. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Stéphane. Bon, ça y est, donc voilà, digne représentant de la tech française en Chine. Merci beaucoup aussi à Jean. C'était notre vue d'Asie de cette semaine. Et vous restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite de cet atelier, Silicon Carnet et Cyber Gadget aussi à suivre. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, bon week-end. Dans un instant, les Miss Gadgeto seront là. Cécile et Constance ont deux Gadgeto à nous faire découvrir. Ce sera dans un instant, mais auparavant, notre Silicon Carnet depuis San Francisco. Nathalie Doré est avec nous. Et Nathalie, on va parler fintech cette semaine. Comment se positionne justement la Silicon Valley sur ce sujet, la fintech ?
Eh bien, François, écoutez, la Silicon Valley ne fait rien comme tout le monde, puisqu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de capital dans le monde se positionnent ou veulent se décréter capital ou hub de la fintech, hein, cette contraction de finance et technologie. Eh bien, la Silicon Valley ne se décrète pas capital de la fintech et pourtant, elle mériterait le titre puisqu'il se passe vraiment énormément de choses ici.
Alors, la Silicon Valley, capitale de la tech, serait donc aussi la capitale de la fintech. Qu'est-ce qui vous fait arriver à cette affirmation, Nathalie ?
Alors, rien que si on regarde en termes d'investissement fait par les fonds, 56% des investissements mondiaux en fintech se font aux USA, donc c'est déjà la majorité dans le monde, et la majorité d'entre eux se font dans la région de San Francisco et de la Silicon Valley. Cela s'explique notamment par le vivier d'entreprises en fintech présentes ici, hein, qui est très important. Il y a forcément les gros comme PayPal, Square, Landing Club, bon, qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine en se séparant de son CEO, mais on va pas ouvrir ce chapitre. Et également un immense vivier de prometteuses startups qui cherchent à améliorer, voire transformer l'expérience bancaire. Donc on a connu une première vague fintech autour des paiements, une deuxième vague fintech autour des prêts entre particuliers, et on est actuellement dans une troisième vague fintech sur l'investissement.
Justement, Nathalie, quelles sont les startups que vous voyez émerger, vous, en Silicon Valley, dans la fintech ?
Alors écoutez François, ça tombe bien, on en voit tous les jours et on en a vu énormément cette semaine puisqu'il y avait Finovate Spring qui est une conférence dédiée au fintech. Alors Finovate a lieu à San José, ça se passe sur 2 jours et il y a eu une petite centaine de startups qui sont venues pitcher leurs solutions. Alors moi j'en ressors plusieurs tendances. La première, c'est vraiment que ça confirme qu'on est dans la vague des investissements avec notamment les robots investisseurs. Vous en avez certainement entendu parler. Et on est du coup dans une phase où on a vu beaucoup d'acteurs généralistes se positionner sur les investissements dans la tech. Et ben là, on arrive avec des acteurs qui se spécialisent. Il y a eu par exemple Landing Robot, qui est un robot qui investit pour vous dans des prêts entre particuliers, donc les plateformes type Landing Club. Il y a eu Equizen qui propose d'investir dans des entreprises de la tech, n'étant pas forcément en bourse comme Airbnb, Spotify ou encore Lyft. Et on a vu aussi la start-up de Philadelphie, Worf FM. C'est un robot qui conseille les femmes. Alors, je vous vois venir François, le conseil n'est pas forcément différent, le site n'est pas forcément rose, mais en fait la différence c'est qu'il y a plus d'éducation financière sur ce site, sur cette plateforme. Et les études le montrent, aux USA, les femmes se considèrent moins pointues en culture d'investissement et elles apprécient, elles sont demandeuses d'être éduquées financièrement.
Et Nathalie, à part l'investissement, quelle autre tendance voyez-vous dans les fintechs ?
Alors, pas de surprise, hein, les sujets de compliance sont toujours très présents. Donc, tout outil permettant d'améliorer les process, vous savez, de Know Your Customer, connaissez votre client, est le bienvenu. Qumran, une start-up suisse qui était présente à Finovate, le fait, elle enregistre en fait toutes les interactions clients sur tous les canaux digitaux, hein, de WhatsApp à LinkedIn. Et puis aussi, en termes d'innovation, la vague des chat robots, ces robots qui chatent grâce à l'intelligence artificielle à la place des humains, sont aussi présents dans la banque avec des start-up comme Corée qu'on a vu également à Finovate. Et puis, bien sûr, pour finir, je dirais que la blockchain est bien, bel et bien présente, qu'elle va changer la donne en termes de gestion des transactions et certainement aussi faire disparaître certains intermédiaires. Donc beaucoup de choses à dire sur la fintech, même si les investissements ralentissent actuellement, le sujet est toujours très dynamique, François.
Merci beaucoup Nathalie, c'était le Silicon Carnet de Nathalie Doré depuis San Francisco. Et tout de suite on enchaîne avec la sélection de gadgets des filles des gadgets. Les Gadgeto Girls sont là, magnifiques. Et on va commencer par Constance.
Oui, alors comme c'est un long week-end, moi je vais vous proposer de partir sur les chemins avec moi à bicyclette. Mais pas n'importe comment, sur une bicyclette connectée un peu spéciale. Alors on sait que le vélo à assistance électrique connaît un grand succès actuellement, mais son coût reste quand même assez prohibitif pour beaucoup.
Et ça coûte plusieurs milliers d'euros, un beau vélo électrique. Hein.
Pour un vélo de milieu de gamme, vous devez débourser quand même 1 500 euros,
voilà, oui,
pour en acquérir un. Mais il y a Roulin, voilà, qui va changer les choses.
Roulin,
c'est une start-up française qui vient sauver nos portefeuilles en proposant, au lieu d'un vélo intégralement électrique, une roue connectée de plusieurs tailles qui peut du coup s'adapter à n'importe quel vélo.
Ah d'accord, j'enlève la roue que j'ai.
Voilà.
Et à la place, je mets
Roulin. Vous mettez une roue connectée, donc il y a une batterie et un moteur de 250 watts. Et grâce à cette roue, il vous est possible de faire 50 km à 25 km/h. Alors, il y a aussi le décompte des kilomètres qui s'affiche sur la roue, aussi le niveau de batterie pour savoir quand vous devez la recharger pour pas tomber en panne sèche avec votre bicyclette, si on peut dire. Et finalement, le tout coûte la somme de 600 euros. Alors, c'est vrai que ça fait cher pour une roue, mais quand on voit le prix d'un vélo électrique, c'est finalement assez rentable. Et en plus, même d'un point de vue écologique, finalement, c'est un peu récup parce qu'on utilise encore son ancien vélo au lieu d'en acheter un nouveau. Par contre, le seul bémol, c'est que cette roue est lourde. Elle faut ajouter 6 kilos de plus au vélo. Et ça cause aussi un petit effet gyroscope. Donc, pour les cyclistes avertis ou qui ont beaucoup de mouvements, de lacets.
Oui, parce que ça, en fait, ça change aussi, on va dire,
le centre du poids du vélo.
Voilà.
Donc, c'est vrai que quand on a des routes un peu compliquées à faire, c'est pas forcément excellent. On va dire que c'est plus pour des déplacements en ville. Donc voilà, il arrive très bientôt. Aux États-Unis, il y a une roue électrique encore plus performante qui a été mise en place, qui propose d'aller jusqu'à 32 km/h en centre-ville. Sauf que là, comme vous dépassez la norme autorisée des bicyclettes électriques, vous rentrez dans les motocyclettes.
Oula.
Il faut tout de suite immatriculer votre vélo et porter un casque.
Bon,
voilà, donc est-ce
plus
qu'il faut mettre la pédale douce sur la roue connectée? Voilà la grande question du week-end.
La pédale douce sur la roue connectée, Constance.
Elle était bonne.
Ah oui. Franchement, ça, c'est pas de l'humour gadget, si je puis me permettre. Donc, vous rendez compte, 32 km/h avec un vélo. Bientôt, on va se faire flasher à vélo.
C'est ça.
Ça va être. Bon, enfin, bref. Cécile.
Alors, moi, je vais vous parler des post-it qu'on laisse tous sur les bureaux de nos collègues ou sur le frigo à la maison. Eh bien, aujourd'hui, tout devient digital, même le post-it, qui va pouvoir s'afficher, en fait, sous forme de bloc. Un bloc qui s'appelle Cynote, qu'on peut accrocher n'importe où dans la maison et qui est ultra connecté. Donc, il va donner des informations sur le trafic routier, sur la météo et vous envoyer des petits messages sur l'écran, comme pensez à prendre un parapluie, il fait froid aujourd'hui. Il peut aussi se connecter à votre agenda, vous rappeler l'anniversaire du voisin ou de mamie.
Ne pas rater l'atelier numérique le samedi après-midi.
16h à 18h, par exemple.
Voilà, des choses comme ça importantes.
Exactement.
D'accord.
Il donne aussi accès aux applications de la Smart Home et surtout, il permet de laisser des messages à distance. Par exemple, vous rentrez tard du boulot, il faut aller chercher à aller à la danse, ou vous pensez à votre liste de courses sur le chemin du travail, hop, vous envoyez ces messages à Cynote et toute la famille pourra les voir à la maison, en fait, comme si vous l'aviez rédigé tout de suite. D'autres fonctions sont envisagées, comme la commande de nourriture en un clic et des choses qu'on pourrait faire à partir de ce device, en fait. Et le plus, c'est que Cynote tient très bien la batterie puisqu'il suffit de le charger une fois par mois.
Pas mal.
J'ai un deuxième petit gadgeto pour vous très rapidement en e-santé, qui va ravir, je pense, plus d'un professionnel, puisqu'il s'agit de jambières qui permettent de s'asseoir tout en restant debout. Est-ce que vous suivez, François? Là, je vous sens un petit peu perdu.
Moyennement, là. Je, autant le vélo tout à l'heure de Constance, j'ai compris. Là, la jambière, c'est un peu plus compliqué. Alors, allez-y.
Alors, en anglais, c'est une wearable chair, une chaise que l'on peut porter comme un vêtement.
D'accord.
Et qui permet aux professionnels qui sont obligés de rester debout pendant des heures de se reposer en gardant leur position debout, mais en étant un petit peu assis en même temps.
C'est comme si on se tenait, par exemple, à une rampe ou quelque chose comme ça.
Par exemple, on est légèrement fléchi, on a le buste quand même bien droit et la jambe la plus droite possible.
D'accord.
Mais en fait, c'est une grande jambière qui va entourer les deux jambes des pieds jusqu'aux cuisses.
Et qui sert de support, en fait,
exactement,
au corps.
Exactement. On se glisse dedans et qui tient la cuisse d'une certaine façon où on est un peu assis, donc les lombaires sont reposés, mais on reste debout. debout. Et par exemple, ça peut servir notamment les chirurgiens qui restent des heures durant jusqu'à 12 heures pour réaliser des opérations, mais également plein d'autres métiers comme les barmans, les ouvriers aussi sur les chantiers pendant de longues heures, les peintres en bâtiment. Donc voilà, vraiment, ça pourrait soulager des professionnels. Et on imagine aussi le futur de cette innovation dans l'aide aux personnes âgées, dans les infirmes, mais également, pourquoi pas, pour les flemmards, en fait, tout simplement.
Oui, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cécile. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre start-up de la semaine et notre enquête de l'atelier de cette semaine. On va parler du biohacking. Qu'est-ce à quoi le biohacking? Ben, vous saurez tout dans quelques instants avec des exemples concrets aussi. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, on va parler de biohacking. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien voilà, il va falloir simplement attendre quelques minutes et vous aurez la réponse. On retrouvera aussi notre web stratégie dans quelques minutes. Mais dans 10 médias, c'est notre start-up de la semaine. La start-up de la semaine, c'est avec vous, Aurore Géraud, et on va découvrir Biomodex cette semaine.
Oui, François, cette semaine, pour notre coup de cœur start-up, je suis en compagnie de Thomas Marchand, qui est cofondateur de Biomodex. Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, Biomodex, qu'est-ce qui se cache derrière ce joli nom ?
Alors, Biomodex est une start-up de simulation chirurgicale. À la base, on part toujours d'une imagerie médicale. Cela peut être un scanner ou un IRM. On va venir extraire une forme de cette imagerie médicale pour ensuite l'imprimer en 3D avec une technologie d'impression 3D multimatériaux qui permettent d'avoir les mêmes caractéristiques mécaniques des tissus que dans le corps humain.
Pourquoi on a besoin aujourd'hui d'utiliser l'impression 3D pour recréer des organes ?
On est parti à la base d'une constatation et d'un besoin, c'est que aujourd'hui l'apprentissage de la chirurgie est relativement en retard par rapport à d'autres types d'apprentissage, comme par exemple dans l'aéronautique où on utilise déjà beaucoup la simulation. Aujourd'hui dans la chirurgie, on se fait essentiellement cela par compagnonnage, c'est-à-dire qu'un chirurgien senior assiste son chirurgien junior pendant une opération, mais sur un réel patient. Alors, il existe des alternatives, comme l'entraînement sur le cadavre ou l'entraînement sur l'animal, par exemple le porc ou le rat pour la microchirurgie. Mais ce ne sont pas de bonnes solutions parce qu'il y a des très forts enjeux éthiques, il y a des problèmes de logistique et on n'arrive pas à répondre à tout le besoin de formation finalement. Donc, avec nos maquettes imprimées en 3D, on a les avantages d'avoir les mêmes propriétés mécaniques des tissus, mais aussi on a tous les avantages de la logistique, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple de mettre en place un cours.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de maquette, de type d'organes ou d'éléments du corps qu'on peut reproduire et comment cela fonctionne ?
Absolument. Alors on est très fiers d'avoir gagné un appel à projet par l'Université Sorbonne Paris Cité sur le thème des pédagogies innovantes. Et on a porté un projet avec le professeur Alain Gonemi de l'hôpital Robert Debré à Paris sur le thème de l'hydronéphrose. Donc c'est-à-dire que c'est une pathologie du rein de l'enfant. Il est nécessaire de l'opérer. C'est une opération qui est extrêmement complexe à faire et donc il était nécessaire de développer un simulateur pour former les futurs chirurgiens pédiatriques.
Et du coup, l'enfant, vous me disiez que c'était il y avait quelque chose de particulier sur le fait de reproduire ces organes.
Alors, chez Biomodex, on est essentiellement des ingénieurs biomécaniciens. Et donc, notre science, comme je le disais, est vraiment de reproduire des propriétés mécaniques des tissus en impression 3D. Et on est capable de reproduire des tissus qui sont plus fragiles, comme par exemple ceux de l'enfant ou de la personne âgée qui a des os qui sont plus fragiles qu'une personne saine.
Alors, est-ce que vos simulations sont génériques, entre guillemets, ou est-ce qu'on peut aller vers le spécifique ?
On a été aspiré, notamment par l'industrie de la santé, par des applications patients spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a le même processus, on part de l'imagerie médicale, on imprime en 3D l'organe, mais cette fois-ci pour chaque patient. C'est-à-dire qu'on a l'image médicale de Madame Durand et on imprime l'organe de Madame Durand. Donc le chirurgien peut s'entraîner la veille de l'opération sur l'anatomie de son patient. Il peut donc essayer différentes voies d'abord et à la fin, finalement, faire baisser le risque opératoire très substantiellement.
Alors, vous êtes finaliste des prix EDF Pulse en matière de e-santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Déjà, de gagner le prix EDF Pulse, qui est très prestigieux. On est extrêmement fiers d'être aux côtés de l'ECA dans cette finale santé. et on peut nous souhaiter aussi de finalement continuer à nous développer. On a notamment la chance d'être accompagné par un très bon incubateur qui est Agoranov et par Dassault Systèmes, l'accélérateur de la célèbre société française.
Merci beaucoup Aurore, et place donc à notre enquête de l'atelier et ce samedi après-midi en compagnie de Lila et nos invités, on va découvrir le biohacking et ses applications, Lila.
Oui, tout à fait, parce que c'est une vraie tendance de fond, récente d'ailleurs, et que les applications sont infinies. Alors, hacker le vivant, c'est plus ou moins le projet. On a trois.
Puis ça fait un peu peur aussi, quand même.
Mais vous allez voir, il faut pas.
Bon.
Il faut pas du tout. On a la chance d'avoir trois de ces praticiens quelque part en studio. Alors Sandra Ray, bonjour.
Bonjour.
Alors Sandra Ray, vous êtes cofondatrice de Glowy. On va découvrir plus tard en quoi ça consiste. On a également Jérémy Blache.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Pili. Pareil, on découvrira plus tard. Et nous avons également Hassen Larèche. Bonjour.
Bonjour.
Alors Hassen Larèche, vous êtes directeur des opérations de Creative Valley et administrateur de la Paillesse. Jérémy, on est d'ailleurs le secrétaire.
Tout à fait.
C'est ça.
Oui, on est collègues en fait.
Voilà. Donc vous connaissez.
Alors, c'est pour ça que vous êtes mis à côté. Hein. Tout de suite, on a vu qu'ils étaient collègues.
C'est ça.
Métier,
voilà,
c'est
ça.
Alors, si on dit le biohacking, c'est plus ou moins hacker le vivant. Est-ce que c'est une définition qui vous convient, Hassen?
Alors moi, je vais commencer par une petite échappée. En fait, autour de la table, il n'y a pas de biologiste. Donc, on parle de biohacking, mais c'est très intéressant parce que ça va donner un petit peu un ton de ce que c'est que le biohacking. Alors, moi, par exemple, je suis physicien. Jérémy.
Moi, j'ai fait une école de commerce.
Et moi, je suis designer.
Ah ouais, d'accord.
Ah oui.
Donc, en fait, déjà, le premier constat, c'est que le biohacking, c'est une sorte de creuset dans lequel on va mélanger plein de talents très, très différents pour penser différemment, en fait, la façon de créer. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté entrepreneuriat. Et ce qu'on essaie d'imaginer, en fait, c'est un système dans lequel on va permettre, en fait, aux porteurs de projets qui sont vraiment intéressés par la technologie, la science, de se retrouver, de croiser un écosystème et de fonder des projets.
Alors peut-être qu'il faudrait quand même qu'on explique ce que c'est le biohacking. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de biohacking pour que ce soit un peu plus clair?
Bah on a Jérémy.
Alors je sais pas si on peut définir Pili comme un projet de biohacking, mais effectivement on a quand même commencé dans une cave, dans un bâtiment désaffecté, dans un squat, sur une petite preuve de concept en biologie, et aujourd'hui on est en train de monter une société. On développe des colorants naturels sans plantes et sans animaux, et donc
c'est ça pour vous, enfin c'est l'une des définitions du biohacking, c'est de fabriquer un colorant sans plantes et sans animaux.
Alors là on va plutôt parler des procédés de biotechnologie. Je pense que l'idée dans le biohacking, c'est plutôt d'où part un projet et où est-ce qu'il arrive. En fait, pour moi, le biohacking, c'est un petit peu un terme un peu marketing, on va dire, qui sert à définir une nouvelle tendance. Mais j'aime pas trop, en fait, l'utiliser. Ce qui est surtout important dans le biohacking, c'est l'intention. Et c'est qui fait quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, je trouve, qui est remarquable, c'est que les codes changent. Et je trouve qu'en fait, les individus ont plus de pouvoir pour innover et pour entreprendre. Et donc on observe que des domaines qui étaient réservés avant à une élite, et on va dire plutôt à l'industrie, aujourd'hui se retrouvent dans les mains d'étudiants, dans les mains d'entrepreneurs, dans les mains de chercheurs indépendants. Et tous ces gens-là peuvent aujourd'hui travailler ensemble et monter des projets beaucoup plus facilement qu'avant.
Sandra Ray, est-ce que c'est une opinion que vous partagez, plus ou moins cette définition?
Oui, tout à fait. Moi, je suis pas non plus très fan du mot biohacking parce que il veut dire beaucoup de choses. Je pense que pour moi, la définition du biohacking, et nous, on développe une solution de lumière biologique, en fait, à partir de bactéries. Donc, c'est aussi sortir du milieu de la biologie traditionnelle par la manière de penser, donc de gérer le projet. Donc, typiquement, ce projet-là, en l'occurrence, qui est aujourd'hui une start-up qui a plus de 10 personnes, est née dans mon école de design, donc avec zéro compétence scientifique. Et c'est le fait de gérer ces projets d'une manière différente et d'utiliser surtout ce que c'est faire le vivant et ce qu'on connaît aujourd'hui en biotechnologie, en y ajoutant des connaissances en biotechnologie, en biologie synthétique, pour générer de l'innovation. Et c'est surtout ça, c'est vraiment un nouveau regard qu'on porte sur le vivant et sur la biologie, justement qui sort la biologie du domaine du médical et qui permet d'obtenir des innovations
très différente.
Alors, excusez-moi d'être terre à terre, mais ça, c'est très intéressant, votre concept de quoi? De lumière à base de bactéries, c'est ça?
Exactement. En fait, on utilise...
Alors, comment ça marche?
On utilise la
biologie...
Poisson
de calamar. Ouais, en fait, on utilise la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière, comme le fait la luciole sur Terre et comme le font les méduses, les poissons, les calamars dans la mer. Et donc, nous, on récupère ces gènes-là, les gènes qui codent chez ces animaux-là, pour la réaction de bioluminescence, et on le met dans des bactéries plus classiques. Et on ingénierait cette bactérie pour qu'ensuite elle fasse de la lumière de manière continue,
mais
sans électricité.
Concrètement, on peut retrouver cette lumière où, quoi? Dans une ampoule, sur un tissu, sur quoi?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne développe pas un objet comme une ampoule, mais on développe une matière première. Et donc, à partir du moment où on a cette matière première qui est faite de bactéries, on va pouvoir l'utiliser sous plein de formes différentes, au sein de la mettre dans des coques.
Donc, ça peut être du liquide, du solide
Ça peut être du gel, ça peut être du liquide. Ça peut être du solide un peu moins, parce que c'est plus compliqué ensuite pour que les bactéries évoluent dans le milieu. Mais oui, du coup, on va pouvoir...
Il faut qu'elle reste vivante pour que ce soit lumineux.
Oui, exactement. C'est tout l'intérêt du vivant. C'est que, du coup, le fait qu'elle soit vivante fait qu'on va, grâce à leur métabolisme, on va continuer la production de protéines qui va permettre la production de lumière.
Mais est-ce que ça remplace une lumière, on va dire, électrique traditionnelle, ou bon, on en est qu'au début?
Alors, ça ne remplacera pas à terme tout l'éclairage électrique. Nous, on le voit pour plusieurs usages, notamment là où la lumière sert à signaler ou à mettre en valeur. Typiquement, ça va être sur de la vitrine de magasin, ça va être sur de la façade de bâtiment, sur du mobilier urbain, sur de la signalétique. Et ensuite, dans des endroits où l'électricité est trop compliquée ou trop coûteuse à amener, type, on peut aller jusqu'à des endroits, des zones en campagne, des zones en pays émergents, où il n'y a pas d'infrastructure électrique.
Mais j'aurais pas des guirlandes en bactéries lumineuses?
On pourrait. C'est pas la technologie qui l'empêche. Après, c'est les choix stratégiques qu'il y a derrière. Mais en soi, la lumière.
D'accord. Et ça coûte cher aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est encore un projet de R&D qui est né il y a quasiment un an et demi maintenant en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, ça coûte cher parce que la technologie est encore artisanale.
Mais dès que ça rentrera en phase d'industrialisation.
Exactement, les coûts vont baisser. L'objectif, c'est évidemment d'être compétitif sur ces technologies de lumière.
D'accord.
Alors les bactéries, c'est aussi, il me semble, la base de pilier, à savoir que c'est une encre qui est conçue à partir de bactéries, c'est ça?
Voilà, en fait, on propose une solution qui amène une alternative aux colorants synthétiques, donc qui sont issus de la pétrochimie, qui utilisent des procédés polluants et qui sont problématiques quand ils se retrouvent dans l'environnement, et également une alternative aux colorants végétaux qui ont d'autres problèmes. Déjà, c'est généralement de la monoculture, il y a des pesticides, et il y a aussi un problème de mise à l'échelle. On peut pas en produire massivement. Donc nous, on apporte une solution qui allie en fait la productivité de l'industrie chimique et l'innocuité du végétal. Donc on a un produit naturel, mais qui se produit de manière industrielle. Et c'est tout l'intérêt des micro-organismes. Donc nous, on a choisi en fait de travailler sur la couleur, parce que c'était un champ intéressant, et aujourd'hui, en fait, les colorants sont très polluants, notamment dans l'industrie textile, mais on peut faire tout un tas de choses avec.
Et alors, comme par exemple, ça peut teindre éventuellement mon jean, par exemple?
Tout à fait. C'est un des projets de recherche qu'on a aujourd'hui. On travaille sur trois secteurs d'activité, les cosmétiques, les encres et le textile. Mais effectivement, le textile est une des applications les plus intéressantes puisqu'elle utilise massivement des colorants. Et donc ces colorants qui sont issus de la pétrochimie se retrouvent en fait dans les eaux, se retrouvent dans l'environnement et polluent pas mal. Et notamment, ils posent des problèmes dans les faunes aquatiques.
Mais oui, mais là, ces bactéries, il y a des bactéries qui sont gentilles, mais il y en a d'autres qui sont méchantes. Est-ce qu'on peut pas avoir le même problème finalement avec des bactéries?
Alors, en fait, c'est une bonne question. En fait, c'est tout l'intérêt de l'approche qu'on a en biotechnologie dite industrielle ou biotechnologie blanche, c'est qu'on travaille dans des environnements confinés. Donc, à la fin, dans votre nouvelle couleur, vous avez plus de bactéries. Vous avez uniquement un colorant naturel. Comme un extrait de plante.
Mais qui n'est finalement pas contaminé, on va dire, entre guillemets. C'est
pas
ça.
Du tout. C'est totalement inerte. Il n'y a plus de vivant dedans. Vous avez
les bactéries sont mortes, en fait. Ou elles sont plus là.
Elles sont plus là. D'accord. On les garde chez nous.
Vous les gardez.
Voilà.
Pour qu'elles continuent à fabriquer de la couleur, en fait.
Bah oui.
D'accord. Et on peut arriver à n'importe quelle couleur?
Alors, ça, c'est théoriquement oui. Aujourd'hui, on se concentre sur une couleur et bientôt deux, puis trois. Mais l'objectif, oui, c'est d'arriver à une large palette de couleurs.
La bactérie, elle est naturellement de quelle couleur alors? Vous arrivez à quelle couleur là?
Alors ça dépend. On a déjà fait 5 prototypes sur du bleu, du rouge, du orange, du violet. Voilà.
Bon, c'est déjà pas mal.
Il y a pas mal de couleurs déjà.
Ça va?
Sandra Rave, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, sur justement les bactéries, parce que nous, pour le coup, les bactéries, elles sont dans le produit final.
Et elles sont vivantes.
Et elles sont vivantes.
Et, oui, parce
et
que
elles
si elle
sont
meurt,
gentilles.
Y a plus de lumière.
Si elles meurent, il n'y a plus de lumière, exactement. Et c'est aussi un des enjeux aujourd'hui qui est compliqué, notamment réglementairement parlant, puisqu'une bactérie, ça n'a évidemment pas été pensé pour être mis dans une vitrine. Donc l'objectif, c'est aussi d'utiliser des bactéries qui sont évidemment non pathogènes. Nous, ce sont des bactéries qui se retrouvent partout dans l'environnement auquel on confère le pouvoir de faire de la lumière en plus, mais qui sont non pathogènes et non toxiques pour l'environnement. Mais ce sont des vrais enjeux, justement, qui changent du coup la manière de faire, la manière les business models associés aussi, puisqu'on récupère en fin de vie les produits qu'on livre, donc on loue de la lumière au lieu de l'acheter. Donc ça pose des nouvelles questions aussi, et c'est un peu les enjeux aujourd'hui de la biologie de synthèse qui repose plein de questions autour
mais
de
ça. Mais quelle est la durée de vie de votre éclairage?
C'est toute la difficulté de la recherche. En un an de recherche, on est passé de quelques secondes à plus de 3 jours de lumière. Les objectifs qu'on a pour l'année de recherche qu'on est en train de faire là sont entre 1 et 4 semaines de lumière. On n'a aujourd'hui pas identifié les limites jusqu'où on peut aller en termes de durée si on arrive à mettre au point les technologies qu'on veut en tout cas.
Très rapidement, SN Larèche, vous administrez la paillasse. Est-ce qu'il y a d'autres applications que vous avez vues émerger?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai un peu le côté donc physicien, donc je suis beaucoup intéressé par l'instrumentation. Et c'est vrai qu'on a parlé en fait de production, donc biologique, mais on peut aussi regarder de quelle façon étudier en fait la biologie. Et on peut facilement en fait imaginer dans ce type d'espace d'inventer de nouveaux moyens pour observer à bas coût. Par exemple, il y a des technologies qu'on appelle les technologies de microfluidique, en fait, qui permettent de faire des petits processeurs à fluide, un peu comme un microprocesseur, mais qui va permettre en fait de guider, par exemple, un fluide fonctionnalisé pour faire une mesure de pollution dans un sol. Et en fait, ces technologies, elles peuvent être développées dans des hackerspaces parce que justement, elles sont très peu coûteuses à mettre en œuvre. Elles peuvent être déployées. Alors là, on a eu un petit aperçu sur un thème important, c'est le business model. L'un des sujets propres au hackerspace, en particulier donc au biohacking, c'est d'où vient le savoir et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est vrai qu'il y a un gros focus en fait sur les savoirs libres. Comment on peut créer en fait de l'économie viable basée sur des savoir-faire qui sont ouverts, libres. Et donc toute la question qui nous concerne nous en fait, c'est de quelle façon croiser justement des projets qui ont besoin de protéger et de développer une activité un peu traditionnelle avec des personnes qui ont une vision complètement différente, ouverte. Et ce qu'on essaie de faire à la paillasse justement, c'est de créer un mix entre ces différents acteurs et donner la possibilité à l'un de trouver une voie de développement vers le libre et d'autres de trouver une façon de se protéger.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, merci à tous les trois. Sandra Ray de Glowy, Jérémy Blage de Pili, Hassan Larèche de Creative Valley et de La Paillasse également, Jérémy.
Voilà, et n'ayons plus peur des bactéries. Donc,
tout à fait.
Voilà, il n'y a pas de souci. Vous restez avec nous. La suite de l'atelier numérique dans un instant sur BFM Business. On poursuit avec notre web stratégie. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On va parler de réalité virtuelle dans quelques instants dans notre passion selon Sanat. Et quelles conséquences sur le cerveau cette réalité virtuelle dont on parle de plus en plus? Vous savez, ces masques de réalité virtuelle. Eh bien, on fera le point tout à l'heure avec un directeur de recherche au CNRS qui sera avec nous. Mais dans l'immédiat, notre web stratégie, on va s'intéresser à une nouvelle offre signée SoundCloud. SoundCloud qui a lancé cette semaine son offre payante en France. Lila Megrawa, vous avez rencontré son cofondateur.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Alors, lancée déjà en Angleterre et en Irlande, la nouvelle offre de SoundCloud, SoundCloud Go et surtout l'effort de monétisation de service, du service par l'abonnement s'étend à la France. On en parle avec Eric Valforce, cofondateur et CTO de SoundCloud. Bonjour.
Bonjour.
En lançant son service SoundCloud Go, la monétisation de SoundCloud pourrait bien chatouiller Spotify et Apple Music. On va le découvrir avec vous, Eric Valforce. Est-ce que vous pourriez nous esquisser un peu cette plateforme, ce nouveau service que vous lancez, à savoir le SoundCloud Go?
So SoundCloud Go gives you access to the broadest.
Alors SoundCloud Go, ça donne en fait accès à l'abonné à un catalogue musical très riche réuni sur une seule plateforme. Vous avez tous les artistes et labels de premier rang sur cette plateforme, mais aussi les indépendants, les talents émergents, les DJ et les podcasters. Tout ça réuni, ça représente plus de 125 millions de titres. Mais SoundCloud Go ajoute d'autres options à tout ça. Par exemple, si vous êtes à l'aéroport, dans les transports en commun ou autre, vous pouvez toujours avoir votre musique musique avec vous, grâce à l'offline. Et enfin, vous pouvez écouter vos musiques sans être interrompu par une publicité, par exemple.
Alors, ok, est-ce que ça veut dire pour autant que vous pivotez vers un service de streaming musical un peu à la Spotify ou Apple Music? Comment vous vous différenciez d'eux?
SoundCloud possède un pool de 12 millions de créateurs artistes. Ils sont écoutés par tous les mois par 175 millions de mélomanes actifs, pardon. Donc en fait, SoundCloud est déjà aujourd'hui une grosse plateforme d'écoute. Et ce qui en fait une plateforme unique, c'est que nous avons énormément de créateurs qui partagent énormément de contenu depuis déjà des années. Maintenant, grâce à tous les accords que nous avons passés avec les majors comme Universal, Sony, Warner Music, etc., ça signifie aussi que tous les artistes de ces labels vont rejoindre la communauté de SoundCloud. Donc en fait, SoundCloud se distingue déjà des autres plateformes en ayant plein de créateurs, de contenus uniques et un aspect communautaire et social très fort.
Alors, on a pu reprocher à Deezer et Spotify de ne pas penser d'abord aux artistes. Or, vous partez, vous prenez le postulat contraire, à savoir que vous êtes d'abord, initialement, une plateforme de création, et avec le service SoundCloud Go, vous annoncez notamment avoir passé un partenariat avec l'SACEM. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de redonner le pouvoir, le contrôle aux artistes?
SoundCloud was started by Alex, the other co-founder, and myself, and we were both.
Alors SoundCloud, ça a été initié par l'autre fondateur, Alex Young, et moi-même. On était tous les deux musiciens. J'ai passé pas mal de temps à faire de la musique à plein temps. Je faisais des tournées. J'ai même sorti un album. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, on s'est dit qu'on voulait créer une plateforme la plus simple possible pour partager nos créations et les faire écouter au plus grand nombre. Au fil des ans, ce qui revenait à chaque fois dans la bouche des créateurs, c'est qu'ils voulaient agrandir leur communauté, agrandir leur nombre de fans. On a essayé de créer la meilleure expérience d'écoute sur mobile. La deuxième chose qui revenait aussi, c'était maintenant j'ai une grande communauté de gens qui écoutent ce que je fais, mais aujourd'hui j'ai envie d'en vivre. On a donc essayé de répondre à ces problèmes-là. Pour nous, dans tout ce que nous développons, nous pensons d'abord à l'artiste. On souhaite redonner le contrôle aux artistes grâce à des outils puissants. Afin que, par exemple, dans le cas de SoundCloud Go, en tant que créateur, je puisse choisir si je veux ranger mon contenu parmi le contenu gratuit avec les publicités, ou alors parmi le contenu disponible seulement avec abonnement, donc SoundCloud Go. Ça signifie qu'en tant qu'artiste, on peut décider si je veux davantage me focaliser sur du contenu pensé à me promouvoir et étendre ma base fan, ou si je veux tout de suite passer à la monétisation.
Quelle est votre position vis-à-vis des podcasts? Est-ce que ça va également changer pour les podcasteurs ce lancement du service SoundCloud Go?
So SoundCloud Go gives for the listeners, it gives a couple of things. It
alors SoundCloud en fait. Pour l'auditeur de podcast, ça change un peu. À savoir que vous pouvez maintenant disposer d'un podcast, même en ligne. L'autre chose, c'est qu'en tant que podcasteur, vous avez à disposition désormais des outils de monétisation. Donc tout ça, c'est très positif pour la communauté de podcasts sur SoundCloud. Et encore une fois, je me répète, mais je trouve que c'est très excitant et qu'on a réussi à aligner toute l'industrie musicale sur une seule et même ligne. Que ce soit du DJ, du mix de DJ, du podcast, tous les contenus sont réunis en un seul endroit et les créateurs peuvent voir leur audience simplifiée et monétisée. Tout ça, c'est une grosse opportunité pour nous chez SoundCloud, mais aussi un changement de paradigme pour toute l'industrie musicale.
But it's a really, really big deal for music overall and music culture overall.
Ok, alors ça veut dire quoi? Votre plan, c'est de devenir le YouTube de la musique? Est-ce qu'on pourrait dire, si on abuse un peu, à mort le download, vive le streaming, c'est ça?
I think that when we started out with SoundCloud, you know, the word streaming was not.
Vous savez, quand on a commencé l'aventure SoundCloud, le mot streaming n'était pas vraiment répandu et personne savait l'importance que ça prendrait dans le futur. Désormais, tout le monde sait ce que c'est. Ça s'explique aussi par le fait qu'on ait tous un ordinateur très puissant dans notre poche. Tout ça vient d'Internet. En tant qu'utilisateur, je peux maintenant réagir. Je peux charger une musique. Je peux co-créer. Si je suis fan d'un morceau, je peux en faire un remix et ensuite le poster en ligne. Donc, on pense que la musique se réduit pas à la simple écoute, mais aussi à l'engagement autour de la musique. Ça peut être discuter avec l'artiste, commenter le titre ou alors même créer. Donc oui, définitivement, je pense que le futur est au streaming et le streaming n'est pas que de l'écoute de musique.
Alors j'imagine que SoundCloud, ça va être aussi un moyen pour l'artiste indépendant d'avoir toutes les clés en main pour à la fois contrôler ses créations et toutes les étapes de leur diffusion quelque part. Je pense notamment aux artistes auto-édités.
Notre programme de distribution de revenus est aujourd'hui basé sur plusieurs partenariats. C'est vrai. On s'est allié avec les labels, oui, mais aussi avec des organismes qui diffusent la musique sur YouTube et d'autres endroits, et aussi les podcasteurs. Mais surtout, nous avons aussi passé des partenariats directement avec certains artistes. Nous avons, à vrai dire, quelques centaines d'artistes qui ont signé directement chez nous, à SoundCloud, et qui ne sont chez aucun label. Nous croyons à l'intérêt de donner à nos utilisateurs quantité de choix différents et à nos artistes la possibilité de décider de quelle manière ils souhaitent distribuer et partager leur musique.
Thank you, Eric Balforce. Je rappelle, vous êtes cofondateur et CTO de SoundCloud.
Lila, merci. On revient dans un instant. Passion selon Sanet, on va parler de réalité virtuelle. Et puis juste après, ce sera notre World Tour. À tout de suite.